forme et que vous allez suivre la méditation qu'on va avoir ce matin ensemble. Dès qu'elle s'affiche, la voilà. Vous savez que normalement, la semaine passée, c'était la semaine où on a eu nos groupes de maison. Il y en a 6 ou 7 groupes de maison. Et le sujet était Jacques, justement, Jacques chapitre 4, verset 1 au verset 12. Et normalement, après ces réunions de groupes de maison, dans le dimanche qui suit, on fait un petit résumé de ce qui a été fait afin que... pour les personnes qui n'ont pas eu l'occasion d'être dans les groupes de maison, puissent être au même niveau que tout le monde de ce qui s'est passé dans le groupe de maison, mais aussi d'aller un petit peu au-delà de ce qui a été dit dans les groupes de maison. Et justement, pour aujourd'hui, au-delà de ce qui était déjà dit dans Jacques chapitre 4, verset 1 à 12, où Jacques nous parlait de l'entraînement des passions, on va parler d'un sujet qui, a priori, vous allez vous demander, mais qu'est-ce qu'il vient à faire là-dedans? Pourquoi on parle de la jalousie de Dieu au milieu de ce passage? Alors, pour cela, je vous dis d'être un petit peu patient et de suivre le raisonnement dans la méditation qu'on va avoir ensemble. Et d'ailleurs, c'est pour cela que j'ai ajouté 2 autres passage biblique, un en Exode et l'autre en Nahum, qui vont être très rapides, on ne va pas prendre trop de notre temps. Donc, pour commencer la méditation, je vous propose de m'écouter ou de prendre votre Bible et de lire. Le texte va s'afficher. Alors, par contre, aujourd'hui, je vais vous demander de ne pas lire très vite. Si vous prenez votre Bible et qu'on n'a pas tous la même version, je vais utiliser une version très ancienne, exprès, vous allez comprendre pourquoi. Vous serez peut-être tenté de lire très vite, plus vite que moi. Et là, aujourd'hui, je préfère que vous ne lisez pas vite, que vous lisez lentement, parce qu'au milieu de la lecture, je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter pour faire un petit commentaire, non seulement sur ce que les autres traductions, d'autres traductions, on va citer 4 ou 5, peuvent traduire un certain passage, une certaine phrase, et on va les discuter ensemble. Donc, maintenant que vous savez un petit peu comment on va procéder, je vous propose soit de m'écouter, ou de lire, suivre la lecture, soit d'ouvrir votre Bible et de lire ensemble. Mais allez-y doucement avec moi. Jean, chapitre 4, versets 1 à 12. Jacques dit la chose suivante. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimité contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Point. On va s'arrêter, on ne va pas aller plus loin pour l'instant. J'ai mis en rouge le mot jalousie. Ça, c'est second. 1910, très ancienne, ceux qui ont l'habitude, c'est ce qu'ils lisent en lisant ça. Ceux qui ont le semeur, eux, vont lire autre chose. Ils vont lire, prenez-vous pour des paroles en l'air, ce que déclare l'Écriture, au lieu de croyez-vous que l'Écriture parle en vain. Et à la suite, ils vont lire, Dieu ne tolère aucun rival. Dieu ne tolère aucun rival. Et comme commentaire, la Bible du Semeur dit « Dieu réclame pour lui seul l'esprit qu'il a fait habiter en nous » ou bien on peut traduire que l'esprit que Dieu a fait habiter en nous désire d'un amour sans partage. Désire, l'esprit désire d'un amour sans partage. Second 21, lui, il traduit un petit peu différemment. Il dit, comme l'ancienne traduction second, « C'est avec jalousie que Dieu aime ». Là, il ajoute le mot « amour » à la jalousie, dans le sens de l'amour. « C'est avec jalousie que Dieu aime l'esprit qui habite en nous ». Il dit aussi que dans la note, dans les commentaires, dans les notes, qu'on peut aussi traduire d'une autre manière et dire « L'esprit qui habite en nous a des désirs jaloux ». Darby, de 1910, le voit d'une manière complètement différente. Et vous allez voir pourquoi dans quelques secondes. Il dit « Que pensez-vous ?» il dit « Ou pensez-vous que l'Écriture parle en vain ?» L'esprit qui demeure en nous désire-t-elle avec envie? Voyez un petit peu, on a qu'il part dans l'autre sens, d'une manière tout à fait différente. Et justement, avant d'aller plus loin, on va se poser la question. Et on va repartir au dictionnaire. Et au dictionnaire, on va se poser la question suivante, mais que veut dire le mot jaloux? Comment le dictionnaire définit ce mot? Alors le dictionnaire Larousse le définit et il va donner deux significations possibles au mot jaloux. Dans le premier, il va dire c'est un sentiment d'inquiétude douloureuse chez quelqu'un qui éprouve un désir de possession exclusive envers la personne aimée et qui craint son éventuelle infidélité. Vous avez saisi? Vous avez saisi ce que la définition qui a été donnée? C'est un sentiment de quelqu'un d'inquiétude. Mais cette inquiétude, elle est douloureuse. Et elle est éprouvée envers quelqu'un qu'on aime et qu'on craint son infidélité. C'est ça la jalousie. Donc vous voyez un petit peu pourquoi, que ce soit la Bible Semeur ou que ce soit second 1910 ou second 21, traduisent par jalousie, ils mettent amour et le Semeur dit non-tolérance, intolérance à avoir un rival. Vous voyez pourquoi cette... Tous, que ce soit Semeur ou second 21 ou second 1910, ou la colombe ou la Bible de Jérusalem, conservent cette manière de voir. Tandis que Darby, lui, voit d'un autre sens, d'une autre manière. Il voit la deuxième signification que le Larousse donne, qui dit « un dépit envieux ressenti à la vue des avantages d'autrui ». La jalousie n'est plus liée à la passion amoureuse, à l'amour de quelqu'un, mais là, elle est liée à l'envie que quelqu'un autre possède. Et Darby voit dans cette phrase que l'esprit qui est en nous n'a pas les sentiments envieux que les chrétiens avaient et qu'on a lu au début. C'est important de voir ces deux manières de traduction, de possibilité. Alors, personnellement, j'ai conservé toujours la première, pas utilisé celle de Darby, parce que comme on va le voir dans la Bible, le sentiment de jalousie de Dieu ou de l'Esprit, et on va le voir, est lié justement à la passion et à l'amour, et pas à l'envie de posséder quelque chose. Alors, voilà, et ça continue donc, je vais reprendre maintenant notre texte, et je le reprends. « C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Pardonnez-moi, mais je vais m'arrêter encore. Je vais m'arrêter parce que je vais relire le verset 1 et 3. Vous savez, quand on veut perdre les gens, il suffit d'insister sur un mot ou deux, et après, vous êtes concentré à ce que je veux dire sur la jalousie, par exemple, et on oublie le contexte. Donc, permettez-moi de vous remettre dans le bain et de relire de nouveau les versets 1 à 3 pour qu'on ne les oublie pas de notre tête. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Ne les oublions pas, ces quelques versets. Continuons notre lecture. Jacques, chapitre 4, maintenant, versets 7 à 10. Et il poursuit, Jacques, l'apôtre, il dit « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Ou cœur partagé, d'autres traductions. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Et Jacques poursuit, ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Comme je vous ai dit, pour qu'on puisse avoir le contexte global, on va lire deux autres passages rapidement. Un que vous connaissez bien en Exode, déjà dès le premier commandement qui a été donné par l'Éternel Dieu à son peuple, il lui dit « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. » Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne le serviras point. Et là, on revient au mot. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Ça, c'est second 1910. Bien sûr, comment il va traduire le semeur? Il va dire, moi, je suis un Dieu qui ne tolère pas de rival. Et second 21, il va ajouter quelque chose. Il va dire, car je suis un Dieu à la passion jalouse. Je suis un Dieu à la passion jalouse. Vous avez compris dans quel sens il donne cette traduction du mot jaloux? Dans le sens de l'amour de passion, ne pas avoir un rival. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Et pour finir, on va lire ces trois versets de Nahum. Oracle sur Ninive, livre de la prophétie de Nahum, d'Elkosh. L'Éternel est un Dieu jaloux. Bien sûr. Le semeur, qu'est-ce qu'il va dire? Ne tolère pas un rival. Et second, va laisser le mot jaloux. Darby aussi, il va le laisser ici. L'Éternel se venge, l'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis, l'Éternel est lent à la colère, il est grand par sa force, il ne laisse pas impuni. On y reviendra à tous ces versets dans très peu de temps. Voilà donc le sujet aujourd'hui. L'entraînement de nos passions et la jalousie de Dieu, ou l'intolérance à la rivalité, si vous voulez. Ou la passion amoureuse, si vous voulez. Hein? Je vais utiliser le mot jalousie parce que je connais second 1910 depuis que j'étais jeune et ça reste dans ma tête. Mais tout revient au même. Hein? Ça veut dire la même chose. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, rapidement, pour qu'on comprenne? On va avoir une rapide résumé de l'enseignement qui a été tiré de ce passage. Juste pour ceux qui sont été dans les groupes de maison, se le rappellent, et pour les autres membres de l'Église, qu'on soit au même niveau de compréhension de ce passage, nous, ceux qui ne sont pas été dans les groupes de maison et ceux qui ont été. Mais après, on va aller un peu au-delà. Et on va regarder un petit peu maintenant, c'est quoi cette jalousie de Dieu? Si j'ai choisi d'en parler, ou cette non-rivalité, c'est pour une raison. Ce n'est pas juste pour vous dire comment on peut traduire, quelles sont les différentes manières de traduire ce passage. Et bien sûr, à la fin, on n'est pas là ce dimanche juste pour être heureux ensemble et à dire, ça y est, on a compris quelque chose. C'est quand même pour qu'on se dise, et alors, avec ce que j'ai appris aujourd'hui, qu'est-ce que ça va me servir dans ma vie de chaque jour? Voilà un petit peu le cheminement, le raisonnement qu'on va suivre dans ces 20-25 minutes qui nous restent encore ensemble. J'espère les tenir. Commençons par se poser la question, que voulait enseigner l'apôtre Jacques dans ce passage? Il n'a pas écrit pour rien, vous êtes d'accord avec moi? Alors, quels sont les mots et expressions qui attirent notre attention? Rappelez-vous, je vous ai fait relire le chapitre 4, versets 1 à 3, pour qu'on ne les oublie pas. Hein? Pour qu'on ne les oublie pas. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit des mots comme convoiter, convoitise. On voit des mots comme envieux, comme querelle, querelleur. Puis d'autres mots. Et puis après, on trouve quelque chose d'impressionnant. On trouve des mots comme meurtrier et comme adultère. L'apôtre Jacques, comment peut-il parler à des chrétiens en leur disant meurtrier et adultère? Pour ceux qui ont suivi les groupes de maison et qui ont lu les chapitres d'avant, Jacques ne parle pas comme ça. Jacques parle à des frères. Plusieurs fois, il utilise le mot frère. D'ailleurs, systématiquement, il utilise les mots frère. Et à partir de verset 11 de ce chapitre 4, il va recommencer à utiliser les mots frère jusqu'à la fin. Or, au milieu de sa lettre, là, on voit des mots très durs et il s'adresse à des chrétiens en leur disant meurtrier, adultère. Est-ce logique de parler comme ça à des chrétiens? Pourquoi ce changement de ton de l'apôtre Jacques? Mais si on revient, pour ceux qui connaissent bien la Bible, on peut voir aussi que les prophètes comparaient souvent Israël à une fiancée promise à Dieu, mais qui court après d'autres amants, les faux dieux. Je vous ai laissé les passages bibliques, vous allez aller le voir. Il y en a en Osée, chapitre 1 à 3, qui sont très importants. Et vous allez voir, on va relire 2-3 versets à la fin de notre méditation qui sont très parlants dans Osée. Mais je vous laisserai les découvrir dans quelques minutes, un petit peu. Mais Jésus a qualifié la génération de son temps comme adultère. Prenez les versets bibliques dans la semaine, ce que j'ai mis ici, et allez les relire pour savoir que ce n'est pas la première fois qu'on s'adresse comme ça, de cette manière de dire. Le Nouveau Testament, lui, il a repris l'image de l'Église comme étant la fiancée, l'épouse de Christ. Hein? Adultère, fiancée, épouse, ainsi de suite. Hein. Je pose les bases du langage, et puis après, on remet tout ça ensemble pour savoir comment on va le comprendre. D'accord? Mais pour Meurtrier, maintenant, ce n'est pas la seule fois où Jacques parle de Meurtrier. Hein. Ailleurs, il en parle de ce mot. Et Matthieu, chapitre 5, sur le serment de la montagne, Jésus, il parle que la haine ou l'insulte sont considérées comme un meurtre vis-à-vis du prochain. Hein? Jacques, chapitre 4, versets 11 et 12, il va reparler de ça. Et on le recitera. Hein? Et on sait bien quand même, l'apôtre Jean dit que quiconque est son frère est un meurtrier. Et aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Il faut que je change mes lunettes. Ou que j'arrive à suivre mes notes, mais je n'y arrive pas. Je suis pris dans ce que je dis. Bon, on continue notre réflexion. N'y a-t-il pas une similitude avec Galates, chapitre 5, versets 19 à 22? Or, 19 à 21, regardez ce que dit l'Épître aux Galates. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimité, les querelles, les jalousies, l'animosité, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, ainsi de suite. Ce que cite en fait l'apôtre Jacques, c'est un petit peu ce qui était chez les chrétiens d'avant, avant de devenir chrétiens. Des pulsions internes de la personne. Son but de l'apôtre est d'exprimer dès le premier verset et de nous faire comprendre au destinataire de la lettre la cause des luttes et des querelles, non seulement entre eux, mais en eux-mêmes, mais aussi en eux-mêmes. Et là, il va leur dire, l'apôtre, quelle est l'origine des querelles. Il va, dès le deuxième verset, il déclare explicitement que c'est bien l'origine de toute l'envie, des querelles, des disputes, c'est le désir qui est au fond de nous-mêmes. Vous voyez pourquoi Darby, 1970, traduit « L'esprit n'a pas ses désirs ». L'esprit qui est en vous n'a pas ce type de désir. C'est pour cela que Darby le traduit comme ça. Mais si on va rester fidèle à la logique biblique sur toute la Bible, on est obligé de remettre la jalousie, remettre le mot fiancé, amour, ainsi de suite, pour qu'il soit même logique que toute la Bible. Mais Darby a quelque chose en tête, en train de leur dire. C'est un petit peu Galates, chapitre 5, versets 19 à 21, et l'opposé, verset 22. Or, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, ainsi de suite. Oui, Jacques Darby peut avoir raison en traduisant ainsi. L'esprit qui est en vous n'a pas ce type d'envie, de jalousie, ce type d'envie. Poursuivons notre raisonnement. Quel remède, maintenant, il va donner l'apôtre Jacques? Et ça, on va le lire, chapitre 4, versets 7 à 10. Il va saisir les rouages et les enjeux de nos querelles. Ça, on le voit à partir du verset 7 au verset 10, qui nuisent à la... J'arrive pas à lire de loin. Voilà. Qui nuisent à la communion fraternelle, à l'unité de l'Église, pour les désamorcer plus précocement et devenir des ouvriers de paix. C'est ça le résumé qu'il voulait donner entre le verset 7 et le verset 10. Voilà un petit peu, on a pris 7-8 minutes pour que tous en soient au même niveau. ceux qui étaient dans les groupes de maison et les autres de l'Église qui n'y ont pas été. Et on a compris un petit peu le message que veut l'apôtre Jacques donner. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, la jalousie de Dieu, ou l'intolérance à la rivalité amoureuse, entre parenthèses, l'intolérance à cette rivalité. Et là, on entend des choses. Avec ce que je vous ai lu, l'Éternel est jaloux, l'Éternel est furieux, l'Éternel est en colère, l'Éternel veut se venger. Mais attendez, la jalousie, ce type de raisonnement, cette manière de voir, peut-elle être un caractère de Dieu? C'est un petit peu quelque chose de négatif qu'on a l'habitude de donner à la jalousie, la colère, la vengeance, toutes ces conséquences de la jalousie. Peut-elle être un caractère de Dieu? Dieu est jaloux? Mais on doit admettre quand même que dans la Bible, juste pour vous, j'aime bien vous le dire parce que ça met un petit peu l'accent sur les conséquences de la jalousie. Et je le cite, la conséquence, pour que qu'on comprenne un petit peu après la raison pourquoi Dieu est jaloux et pourquoi il y a la colère et furieux. Pour nous l'expliquer, le proverbe nous donne, Proverbe chapitre 6, versets 27 à 35, il parle, excusez-moi le mot que je veux dire, de l'idiotie, de la personne qui commet un adultère. Il dit la chose suivante, « Celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de sorte, il n'aura que plaie et ignominie et son opprobre ne s'effacera point. Car la jalousie met un homme en fureur. Il est sans pitié au jour de la vengeance, il n'a égard à aucune rançon et il est inflexible quand même tu multiplierais les dons. » Je le dis un petit peu pour se rappeler que si on veut rester dans le cadre passionnel d'amour amoureux, ben voilà les conséquences de la jalousie. Voilà les conséquences que je viens de vous lire. Je vous propose de relire ceci un petit peu chez vous et que vous comprendrez un petit peu quel est jusqu'où peut aller la jalousie chez un homme. Quelle est la raison de la jalousie de Dieu? Maintenant, on va commencer à mettre un petit peu tout ce qu'on a dit en ordre. Je vous rappelle ceci, on vient de le lire au début. La jalousie ici, c'était quoi? C'était parce que son peuple va y aller vers des faux dieux. D'accord? Il le dit un peu plus loin, en Deutéronome chapitre 32, verset 21. Il dit, « Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point de Dieu. Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles. Et moi, j'exciterai leur jalousie parce qu'il n'est point peuple, ainsi de suite. » Et en Ézéchiel chapitre 8, verset 5, il parle de l'idole de jalousie. De l'idole de jalousie. Ou idole de provocation. Certaines d'autres traductions. Et là, on voit bien que la cause de la jalousie de Dieu, dont la conséquence est la colère, la punition, tout ce qu'on vient de lire, c'est pourquoi? Oh là là! C'est pourquoi? Pour le peuple d'Israël, pourquoi? Parce qu'il va vers des faux dieux. Dieu n'est pas jaloux des faux dieux. Les faux dieux ne sont pas des rivaux pour lui. Ils n'existent pas. Dieu est jaloux parce que son peuple à lui, sa fiancée, quel qu'il le dit, va vers d'autres dieux, même s'ils ne sont pas vrais. La jalousie, elle est la conséquence d'un attachement passionné à son peuple. C'est parce qu'il aime son peuple qu'il est jaloux de lui. C'est pas parce qu'il y a des faux dieux, il n'existe pas. Il est jaloux parce que son peuple va vers des faux dieux. Pas parce qu'il est passionnément amoureux de son peuple. L'Éternel utilise un langage humain pour nous faire comprendre la profondeur de son amour. Aujourd'hui, notre problème de compréhension, quand on dit jaloux, il a une connotation négative. Mais dans la Bible, elle a une connotation positive. On est jaloux parce qu'on aime passionnément quelqu'un. Et ce que dit Larousse, c'est on souffre, c'est une souffrance de savoir que l'être qu'on aime peut nous être infidèle. C'est une souffrance. L'Éternel, il n'y a pas dans la Bible quelque chose de plus beau que cette phrase en Jérémie. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je t'aime d'un amour éternel. Voilà pourquoi Dieu est jaloux. Dieu est jaloux parce qu'il nous aime passionnément. Le Seigneur, notre Dieu, est un Dieu jaloux parce qu'il nous aime. Il n'accepte aucun rival parce qu'il nous aime. Le Seigneur, notre Dieu, est un Dieu jaloux. C'est à cause de cela. C'est parce qu'il nous aime d'un amour passionnel, passionné. L'Éternel, Dieu, ne veut pas rester sur une connotation négative, qui est la colère et la fureur. Hein? Vous voyez ce qu'on dit? Il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il ne garde rancune à ses ennemis. Mais Dieu, il ne veut pas qu'on reste sur une connotation négative. C'est pour cela, dans Exode, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je punis la première, la deuxième, la troisième génération, mais qui fait miséricorde jusqu'à la millième génération. C'est pour nous dire combien il est bon, combien il est miséricordieux. Il ne veut pas qu'on reste une connotation négative. Il dit, je suis lent à la colère, riche en bonté. Riche en bonté. Et on connaît tous Malachie, chapitre 3, versets 10 à 12. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous je menacerai celui qui dévore. Il ne vous détruira pas les fruits de la terre et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes. Dit l'Éternel des armées, toutes les nations vous diront heureux. Car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Oui, Dieu, l'Éternel, ne veut pas qu'on reste sur une connotation négative. Au contraire, il veut nous montrer son amour infini, infini. Quand on cite ce verset, on n'est pas conscient de l'amour de Dieu. Parce que c'est interdit de mettre Dieu à l'épreuve. Hein? Dans les commandements de Dieu, c'est interdit hein? de mettre Dieu à l'épreuve. Puni de mort, celui qui met Dieu à l'épreuve. Et là, il accepte de se mettre en épreuve pour nous mettre, pour manifester son amour. Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je ne fais pas ceci, si je ne fais pas cela. Cet amour passionnel. Je vous ai dit au début qu'il y a un passage très important en Osée, hein, dans Osée. Vous savez que Osée, que Dieu lui a demandé de se marier avec une prostituée, justement comme étant un symbole d'Israël qui se prostitue, qui va vers d'autres dieux. Israël qui est infidèle. Et là, je souhaite que vous compreniez, que vous saisissez la profondeur de l'amour de Dieu dans les quelques versets que je vais vous lire. Osée chapitre 2, versets 16 à 21. Écoutez-moi, il dit la chose suivante. C'est pourquoi il parle de la fiancée infidèle. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Généralement, quand on a des problèmes, quand on se sent au désert, on dit « Oh, je suis au désert, je suis seul. » Mais c'est ce que Dieu va faire à sa fiancée infidèle. Il va l'amener au désert pour qu'elle ne voit plus personne, pour qu'elle ne voit que lui, qu'elle ne peut plus mettre sa confiance que en lui. Quand on est dans le désert, le peuple dans le désert, il était dans l'esclavage. C'est dans le désert où il a eu les meilleurs moments avec Dieu. C'est dans le désert où Dieu était parmi eux, marchait au milieu d'eux. Une fois qu'ils vont avoir la terre promise, c'était fini. Chacun partait chez soi et il y avait le temple. Ils allaient une fois par an. C'est dans le désert que Dieu était tout le temps avec eux. C'est dans le désert où ils ont eu les miracles de la manne, parce qu'ils ne pouvaient pas avoir à manger. Ils ne pouvaient regarder que vers Dieu dans le désert. Tandis que dans la terre promise, ils regardaient leur propre force. Ils regardaient les alliances avec le peuple à côté. Et nous, on a peur du désert. On a peur des épreuves et du désert quand on est seul. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à ce cœur. Je serai ton fiancé pour toujours. Dans le désert, il n'y a plus personne. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. C'est dans le désert que Dieu va l'amener. Il va prouver son amour envers Israël, envers sa fiancée, son amour passionnel, qu'il va l'amener dans le désert, pour qu'elle se rende compte qu'elle n'a plus que lui, et qu'elle ne regarde plus personne d'autre, et qu'elle met sa confiance en lui. Tu seras ma fiancée, et je serai l'Éternel ton Dieu. Dans le désert, il va la conduire pour ça. L'amour passionnel de Dieu. Je t'ai aimé, Jérémie, hein? Je t'ai aimé d'un amour éternel. Dieu est un Dieu passionnément jaloux de nous, de notre amour, de l'Église. J'espère que je ne vous ai pas endormi, parce qu'on arrive à la fin. Et je tiendrai mes 30 minutes en tout. Alors, quelle application pour nous aujourd'hui? Vous êtes d'accord? Tout ce que je vous ai dit ne vous servira à rien si juste on a appris quelque chose, traduction, ainsi de suite, le désert, patati, patata, tout ceci ne nous servira pas à grand-chose. Mais j'espère une chose. Je vais vous donner deux applications. Hein? Mais j'espère que pendant ce temps, pendant cette méditation, Dieu a parlé à chacun de nous. Il va parler à moi d'une manière, à Germina d'une autre, à Christine d'une autre, à Pauline d'une autre manière. Et il ne va pas nous parler une application particulière à nous tous. J'espère que l'Esprit a parlé et a agi ce matin dans chacun de nous. Chacun va lui parler comme bon lui semble. Mais j'aimerais quand même réfléchir avec vous à deux autres applications. Je ne vous dis pas les seules, je vous dis deux autres en plus de ce que Dieu vous a parlé ce matin. Et je dis la première, Dieu nous aime, Dieu est jaloux. Mais pourquoi on n'est pas jaloux du nom de Dieu? Vous comprenez ce que je veux dire? Jaloux du nom de Dieu, je ne veux pas qu'on prenne le nom de Dieu en vain. Si je suis chrétien, par mon comportement, je ne veux pas que les gens du dehors me disent, il se dit chrétien et regardez comment il vit. Je veux être jaloux du nom de Dieu, de sorte que personne ne va le blasphémer. Regardez les chrétiens comment ils sont. De sorte que je n'ai pas les fruits de la chair qu'on vient de lire en Galates, chapitre 5, versets 19 à 21, mais que j'ai les fruits de l'esprit qui sont en moi. L'amour, la joie, la patience, ainsi de suite, la bénignité, la bonté. Jaloux du nom de Dieu. Et la deuxième chose, Dieu est jaloux de l'Esprit qui a mis en nous. Il nous aime, il est jaloux de nous. Mais pourquoi je ne serais pas jaloux dans le sens positif de mon frère. Hein? C'est dangereux ce que j'ai mis. Hein? Je ne dis pas dans le sens envieux, je l'envie, mais dans le sens du bien-être de mon frère. Jaloux du bien-être de mon frère. Vous allez comprendre ce que je veux dire par ce que l'apôtre Paul a dit. Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. La jalousie que l'apôtre Paul avait pour les chrétiens, il a consacré sa vie pour le bien-être de chrétiens, pour l'évangélisant, pour parler, pour les enseigner, pour les amener à la croissance spirituelle, à la connaissance du Christ. Il était jaloux d'eux, pour eux, de la jalousie de Dieu. Il a mis tous ses dons, toutes ses capacités pour que l'Église de Dieu progresse. Et les dons que Dieu nous a donnés, est-ce qu'on les utilise par jalousie pour mon frère et sœur qu'ils puissent progresser, que son Église progresse? Notre Église à Antony, ce n'est pas la peine de parler de l'Église globale. Déjà là où on est. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, j'espère que Dieu a parlé à chacun de nous. Mais en plus de ces deux-là, je vous invite, en plus de ce que Dieu a parlé à chacun de nous, je vous invite à avoir la jalousie du nom de Dieu, pour que son nom soit glorifié par les gens du dehors et par les gens de dedans. Et qu'on ait la même jalousie qu'a l'apôtre Paul pour nos frères et sœurs en Christ. Que Dieu prolonge cette parole, cette petite méditation qu'on a eue ce matin, tout le long de la semaine, et qu'elle puisse nous éclairer et nous transformer. Inclinons-nous dans la prière. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous as accordée. Merci Seigneur pour ce temps que tu as permis qu'on passe ensemble autour de ta parole. Seigneur, nous voulons croire que tu vas prolonger ces paroles, peut-être pas bien dites, incomplètes de ce que nous-mêmes on a pensé ou la manière dont on l'a dit. Mais nous avons foi, confiance que ton esprit va agir dans notre cœur et va nous transformer. Que ton nom soit béni à jamais, Seigneur. Et merci de cet amour éternel que tu nous as aimés avec. Amen. Voilà, je laisse à Germina qu'elle puisse continuer.
Qu'est-ce qu'on peut dire après cela? Je crois qu'il a tout dit. Je vais juste lire un verset pour terminer notre culte. Dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 3 à 4, pour terminer. Donc, 1 Pierre, chapitre 2, 3 à 4. Alors, les deux versets nous disent... Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Approchez-vous de lui, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et on va terminer notre culte avec un chant, Sola Gratia. Toujours la grâce de Dieu.